Elle me demande si je veux la raccompagner à son hôtel et toujours bien décidé à me changer les idées, j'accepte immédiatement. En me levant, je découvre que mon équilibre n'est pas aussi assuré que je le souhaiterais, mais je me dirige bravement vers la sortie. Oh, comme j'aurais préféré que mes jambes se dérobent sous moi. Betsabé m'attrape par le bras et me dit à l'oreille « N'y va pas, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui demande bêtement si elle est jalouse, et elle me toise d'un regard plein de mépris avant de me suggérer d'aller mourir et de me tourner le dos. Je suis l'Australienne dans les rues de la citadelle. Mon ivresse augmente à chaque pas, comme si le mouvement de la marche aidait à la diffusion massive de l'alcool dans mon organisme. En arrivant à l'hôtel, un immonde gourbi que Philippe a racheté quelques années auparavant et dans lequel s'entassent les touristes les plus nécessiteux ou les plus radins, elle se met à m'embrasser dans l'escalier puis dans le couloir. Quand nous rentrons dans la chambre plongée dans l'obscurité, je me mets en quête d'un interrupteur, mais elle me demande à voix basse de laisser la lumière éteinte parce que son amie dort et qu'elle ne veut pas la réveiller. Je me garde bien de la contrarier, même s'il me paraît évident que cette exquise prévenance ne peut que se révéler bientôt vaine, à moins de supposer que l'Australienne numéro 2, dont je n'ai évidemment pas imaginé une seconde qu'elle partageait la chambre de ma conquête, bien que capable de percevoir les ondes lumineuses, se trouve entièrement privée des sens de l'ouïe et du toucher. La suite des événements semble pourtant corroborer dans un premier temps cette étonnante hypothèse, car l'endormie ne réagit pas le moins du monde quand sa camarade me balance comme un sac sur le matelas grinçant après m'avoir brutalement baissé le pantalon sur les chevilles. Elle ne réagit pas davantage au moment où, cherchant précisément à me débarrasser du pantalon qui m'entrave tout en essayant de récupérer un préservatif dans l'une de ses poches, je tombe sur le sol et me cogne la tête contre le mur. Elle reste parfaitement immobile alors que, enfin, nu et un préservatif à la main, je parviens à me hisser sur le lit si bien que je plonge en pleine crise de paranoïa, la première de cette soirée cauchemardesque. Je m'imagine que la fille est morte, assassinée par sa compagne de voyage qui m'a interdit d'allumer la lumière, non par délicatesse mais pour dissimuler son crime et mettre en scène un scénario de psychopathe où elle s'envoie en l'air près du cadavre mutilé de sa victime avant de trucider à son tour l'imbécile qui l'a suivi sans méfiance dans ce que les journaux appelleraient, dès le lendemain, la chambre de l'horreur. Il me semble que les draps sont raidis par le sang séché, pourtant je ne tente même pas de fuir, au contraire je place tant bien que mal le préservatif dont j'ai réussi à déchirer dans le noir l'emballage avec les dents sur une érection étonnamment stable compte tenu de mon angoisse et de mon alcoolémie, en palpant cependant de ma main libre le corps inerte étendu à mes côtés qui ne présente aucun signe de traumatisme ou de rigidité cadavérique mais se révèle au contraire souple et chaud sous mes doigts et si peu endormi que je me retrouve bientôt assailli de tous côtés, incapable de distinguer dans le noir l'Australienne numéro 1 de l'Australienne numéro 2. Tout aussi incapable de savourer la chance qui m'est offerte non seulement de participer à l'un de ces émouvants moments de fraternisation interculturelle qu'a permis le développement du tourisme, mais de réaliser de surcroît sans même l'avoir cherché le fantasme le plus commun du mal hétérosexuel moyen. Car, comme le rappellent tant de contes où, pour leur malheur, de pauvres hères voient leurs désirs malencontreusement exaucés par des génies ou des divinités malicieuses, les humains ne gagnent rien jamais à voir leurs désirs exaucés. Je me contente de me laisser faire. Je ne pense même pas à allumer la lumière et c'est maintenant moi qui semble souffrir d'une déficience sensorielle généralisée au point que je ne me rends compte de la perte de mon préservatif que par le plus grand des hasards. Ce qui m'oblige à me lancer à tâtons dans la quête périlleuse de mon pantalon, quête au cours de laquelle je tombe à nouveau du lit sans avoir le temps d'esquisser le moindre geste pour amortir ma chute. Et je revois cette fois mon père tombé dans le salon, je revois son visage, cette couleur qui ne devrait jamais apparaître sur aucun visage humain. Et je remonte sur le lit, avec un nouveau préservatif, alors que de vigoureuses protestations commencent à se faire entendre depuis les chambres voisines. Des insultes vociférées dans des langues barbares, des coups de tapis sur le mur que j'essaye d'ignorer, je ferme les yeux, ténèbres sur ténèbres. J'essaye de ne penser à rien, mais je pense à mon père. Et si je parviens à le chasser de mon esprit, je pense malencontreusement au jumeau Benetti, le jumeau numéro 1 et le jumeau numéro 2. Et alors que je cherche à vérifier si ces images parasites n'ont pas irrémédiablement compromis la fermeté de mon appendice génital anesthésié, je me rends compte que j'ai à nouveau perdu mon préservatif et la perspective d'en prendre un troisième me paraît soudain désespérante. D'autant que je n'ai aucune raison valable d'espérer qu'une nouvelle tentative ne mènera pas au même désastre. Il faut se rendre à l'évidence, je n'y arriverai pas. Et cette fois, quand je mets la main sur mon pantalon, je me hâte de l'enfiler, ce qui doit me prendre 10 bonnes minutes. Je récupère ma chemise et mes chaussures et je prends la fuite, abandonnant mon caleçon et mes chaussettes qui gisent quelque part sur le sol, comme les étendards brisés d'une armée en déroute, et finiront peut-être exposés au fronton d'un